Dans nos Bibles, dans l'Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2. L'Épître de Paul aux Colossiens, au chapitre 2, à la page 228 dans notre Nouveau Testament, si vous vous servez de la même version que moi, qui est dans les bancs. Page 228 dans notre Nouveau Testament. Colossiens 2, 11 à 15, que nous lirons après avoir prié. Prions d'abord. Quelle joie, Seigneur Dieu, de pouvoir se placer une fois de plus à l'écoute de ta parole ensemble, unis d'un seul cœur, cherchant à regarder vers toi, cherchant à recevoir de toi les consolations dont nos cœurs ont besoin. Nous te louons de nous avoir donné ta parole de vie éternelle, parole lumineuse et sainte qui parcourt le monde et les siècles, qui attire à toi ton peuple et fortifie tes bien-aimés. Nous prions ensemble que tu ouvres les yeux de notre cœur et nos oreilles aussi, pour qu'on puisse ce matin entendre les merveilles d'en haut à travers ta parole. Qu'elle soit puissante pour venir démolir les raisonnements ou les philosophies trompeuses vers lesquelles nous sommes portés à aller parfois dans nos vies. Accorde-nous la grâce de comprendre ta parole, de la retenir, de la vivre, de la répandre aussi au quotidien. Nous prions comme Samuel, Seigneur Dieu, parle, ô Éternel, car tes serviteurs et tes servantes écoutent. Par Jésus-Christ, nous le demandons. Amen. Écoutons ensemble la lecture de Colossiens 2, 11 à 15. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu, qu'il l'a ressuscité d'entre les morts. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendus à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Amen. Problème au pluriel. Pas des petits problèmes, des gros problèmes. Des problèmes qui, humainement parlant, n'ont pas de solution. De quel problème est-ce que je parle? Premier problème, mes péchés m'accusent. Deuxième problème, la loi de Dieu me condamne. Troisième problème, le diable cherche à me détruire. C'est pas juste mes problèmes à moi, c'est vos problèmes aussi. C'est les problèmes de tout être humain depuis la chute. Et notre cri monte comme ce cri de l'apôtre Paul en Romains 7, « Mais qui me délivrera, malheureux que je suis, qui me délivrera de mes péchés, de la loi de Dieu qui me condamne, du diable qui cherche à me détruire? » On a bien beau tout essayer par nos propres sources, on ne réussit pas à se défaire de ces problèmes. Le magnifique texte de l'Épître aux Colossiens que nous venons de lire, Colossiens 2, 11 à 15, nous présente notre grand libérateur, sauveur, le Christ Jésus. J'ai le grand bonheur ce matin de vous annoncer que Jésus-Christ nous purifie de tout péché, que Jésus-Christ nous fait grâce de toutes nos offenses et que Jésus-Christ a vaincu le diable. Nous poursuivons ce matin notre série de prédications sur l'Épître de Paul aux Colossiens. Nous avions vu la dernière fois ce verset 10 qui nous disait que nous avons tout pleinement en Jésus. Tout pleinement en Jésus, en lui. Et le verset 11 recommence par les mêmes mots, en lui. Nous allons regarder ce matin, donc, avec reconnaissance, comment Jésus-Christ nous purifie de tout péché, comment il nous fait grâce de toutes nos offenses et comment il a vaincu le diable. Premièrement, Jésus-Christ nous purifie de tout péché. Nous nous arrêtons au verset 11 et 12 que je relis maintenant. En lui aussi, vous avez été circoncis d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. L'apôtre Paul nous parle dans ces versets de la circoncision et du baptême. Dans l'Ancien Testament, la circoncision signifiait la purification. La purification. Nous sommes pécheurs, nous avons besoin d'être purifiés de nos péchés. Dans l'Ancien Testament, ce signe de la circoncision, donc l'enlèvement d'un morceau de peau au bout de l'organe reproducteur masculin, ça ne purifiait pas du péché, mais c'était un signe de la purification du cœur. En Romains 2, l'apôtre Paul dit, « La circoncision, ce n'est pas celle qui est apparente dans la chair, mais c'est celle du cœur. » Dans l'Ancien Testament, quel signe représentait la purification? C'était la circoncision. Dans le Nouveau Testament, quel signe symbolise la purification? C'est le baptême. C'est pour ça que quand un nouveau-né vient dans l'Église, je ne me rends pas à l'hôpital offrir une cérémonie de circoncision des nouveaux-nés. La circoncision est terminée. C'est le baptême maintenant qui est le signe de la purification du péché. Autrement dit, le baptême accomplit la circoncision. Certains Juifs voulaient convaincre les chrétiens de Colosse qu'ils devaient absolument se faire circoncire dans leur chair comme signe de purification. Puisque les Colossiens n'étaient pas issus du milieu juif, les Juifs tenaient beaucoup à ce que les nouveaux convertis se fassent circoncire. Et il y a eu une grosse controverse à ce moment-là, à ce sujet. Nous lisons par exemple en Actes 15, 1, « Quelques hommes enseignaient et disaient, « Si vous ne vous faites pas circoncire selon la coutume de Moïse, vous ne pouvez pas être sauvés. » Paul dit, « En lui, en Jésus, vous avez été circoncis, d'une circoncision qui n'est pas faite par la main des hommes, c'est-à-dire le dépouillement du corps de la chair, la circoncision du Christ. Enseveli avec lui par le baptême, vous êtes aussi ressuscité en lui et avec lui par la foi en la puissance de Dieu qui l'a ressuscité d'entre les morts. » Autrement dit, vous autres, les chrétiens de Colosse, qui êtes nés de nouveau, qui vivez en Jésus-Christ, vous l'avez été circoncis, une circoncision qui n'est pas celle qui est faite par la main des hommes, mais qui est opérée par Jésus-Christ, par son esprit, lorsque vous êtes né de nouveau, lorsque vous avez cru en Jésus, votre vieille nature, ce corps a été dépouillé, mis de côté, vous avez été lavé, purifié, nettoyé. Donc, allez en paix. Vouloir revenir à la circoncision de Moïse, ce serait comme faire une injure à Jésus-Christ, puisqu'en lui, vous avez cette purification que lui seul peut procurer. En lui, vous avez été circoncis. Évidemment, l'allusion n'est pas au rite physique de la circoncision requis dans l'Ancienne Alliance. Le chrétien expérimente la réalité de ce que signifiait la circoncision, c'est-à-dire la purification, lorsqu'il croit en Jésus-Christ. Notre verset 12 dit, « C'est par la foi, c'est Dieu qui opère en lui la purification du cœur par la foi. » Ce texte, donc, de Colossiens 2, 11 à 12, relie ensemble la circoncision et le baptême. Il enseigne que la circoncision du Christ, c'est-à-dire la circoncision du cœur, qui autrefois était symbolisée par la circoncision physique, eh bien, elle est accomplie par le baptême. Et donc, Paul dit aux Colossiens, vous avez reçu une circoncision qui est bien meilleure ou qui excelle la vieille circoncision de l'époque de Moïse, puisque Jésus-Christ a opéré en vous la purification de vos péchés. Notre premier problème, c'était que nos péchés nous accusent. Réjouissons-nous, le Christ Jésus est venu pour nous purifier de nos péchés. Deuxièmement, Jésus-Christ nous fait grâce de toutes nos offenses. Je relis maintenant les versets 13 et 14. Vous qui étiez morts par vos offenses et par l'incirconcision de votre chair, il vous a rendu à la vie avec lui en nous faisant grâce pour toutes nos offenses. Il a effacé l'acte rédigé contre nous et dont les dispositions nous étaient contraires. Il l'a supprimé en le clouant à la croix. Notre deuxième problème, c'était que la loi de Dieu nous condamne. Et le problème n'est pas avec la loi de Dieu. La loi de Dieu, elle est bonne, elle est sainte, elle est précieuse, écrit l'apôtre Paul en Romains 7. Le problème, il est avec nous, qui refusons de nous soumettre à la bonne loi de Dieu. Nous devons l'obéissance parfaite à la loi divine, mais nous ne la donnons pas à Dieu. C'est pourquoi le catéchisme de Heidelberg dit « Nous devons à Dieu un entier paiement. » Mais pouvons-nous payer nous-mêmes? Impossible! Nous augmentons au contraire chaque jour notre dette. Nous augmentons au contraire chaque jour notre dette. La loi de Dieu nous condamne. Cette loi de Dieu, c'est, selon ce verset-là, c'est l'acte qui a été rédigé contre nous et dont les dispositions nous sont contraires. Si je tombe à l'eau, je suis mal pris, je n'ai pas besoin de conseils, de cours de natation. J'ai besoin de quelqu'un qui va venir me sortir de l'eau au plus vite avant que je me noie. Si je suis endetté par-dessus la tête, je suis insolvable, je n'ai pas moyen de payer mes dettes. Je n'ai pas besoin d'un ou deux conseils, mais j'ai besoin de quelqu'un qui va venir me délivrer des créanciers, des huissiers, qui va accepter de tout payer ce que je dois. C'est ce que fait le Fils de Dieu, le Christ Jésus. Devant Dieu, nous lui devons un entier paiement, nous lui devons une obéissance parfaite, mais nous ne lui donnons pas. Et le Christ Jésus vient et prend sur lui nos désobéissances, les expie à la croix et nous permet d'échapper aux rigueurs de la loi de Dieu qui nous condamne. Verset 13 dit que Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses en Jésus. Dieu nous fait grâce, nous a fait grâce de toutes nos offenses. Cette dette qui est contre nous, Dieu l'a enlevée du chemin du ciel pour qu'on puisse avancer et aller à lui. Par Jésus-Christ. Il nous fait grâce de toutes nos offenses. Ces mots-là sont magnifiques. Il ne nous fait pas grâce de quelques-unes de nos offenses ou de la majorité de nos offenses, nous demandant de nous-mêmes nous débrouiller avec le reste, en souffrant ici-bas ou dans un autre lieu, à un autre moment donné. Non, il nous fait grâce de toutes nos offenses par l'œuvre de Jésus. Cette vérité certaine est très digne de confiance, met 1 million de sourires dans nos cœurs et nous remplit d'espérance. Ça ne veut pas dire que le croyant maintenant peut faire tout ce qu'il veut, balancer la loi de Dieu dans son dos et vivre d'une façon impie. La loi de Dieu, qui est l'expression de la volonté de Dieu, Dieu l'écrit dans nos cœurs. Dieu nous met à cœur de vivre en harmonie avec cette loi. C'est pourquoi notre Sauveur a dit, « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Si vous m'aimez, gardez mes commandements. La punition à cause de nos désobéissances a été payée à la croix, mais ça ne signifie pas que maintenant nous pouvons vivre n'importe comment et rejeter ou négliger ou mépriser la loi de Dieu. Pas du tout. Cette loi-là nous est très précieuse. Elle nous montre ce qui plaît à Dieu. Elle nous indique la voie à suivre désormais dans notre vie nouvelle, aussi bien pour glorifier Dieu, l'honorer, mais aussi pour être heureux, parce que Dieu a attaché à l'obéissance à sa bonne loi un bonheur que les hommes ne peuvent pas nous donner. Nous sommes libérés de la condamnation de la loi. L'obéissance à la loi ne conduit pas au salut, mais le salut conduit à l'obéissance à la loi. La loi dit, si vous faites ceci, vous vivrez. Puis on ne réussit pas à le faire. La grâce dit, vous vivez. Faites donc ceci. Les motifs, les mobiles sont changés. Et donc le croyant, par reconnaissance à Dieu, par la puissance du Saint-Esprit, se plaît à orienter sa vie de plus en plus en vivant selon la bonne loi de Dieu. Il aime les commandements de Dieu. C'est pourquoi nous avons le psaume 119, le plus long psaume de toute la Bible, qui à chaque verset, pendant 176 versets, célèbre la loi de Dieu. Comment cette loi-là, elle est précieuse, et qu'elle est bonne et qu'elle est source de bonheur. Vous savez comme moi, par moments dans nos vies, lorsque nous chutons, lorsque nous tombons, nous pouvons venir proche de se décourager. Nous sentons bien qu'en nous-mêmes, nous sommes en faillite spirituelle. Et c'est pourquoi nous devons nous souvenir à chaque fois que la dette de nos péchés a été payée par Jésus, le Fils de Dieu. Et grâce à son œuvre, Dieu nous fait grâce de toutes nos offenses. Nous sommes maintenant en mesure d'avoir avec Dieu une relation réconciliée et nous voulons vivre cette relation-là avec un cœur obéissant. Voilà ce qu'expriment les versets 13 et 14. La loi de Dieu nous condamnait, mais notre énorme dette a été complètement effacée, entièrement payée à la croix. Quelle grâce Dieu nous fait, qu'il est bon. Maintenant, nos consciences peuvent être en paix, apaisées, tranquillisées grâce à l'œuvre du Fils de Dieu. Autrefois, les purifications que devaient faire et amener les Juifs après avoir péché remettaient toujours devant eux leur souillure. Ils amenaient un animal, ils devaient le mettre à mort. Ça leur disait, voilà ce que tu mérites, toi, Juif, qui as péché, c'est ça que tu mérites. Continuellement, les purifications, le système des sacrifices redisait tout le temps aux Juifs que c'est ça qu'ils méritaient. Jésus porte à la croix non pas ses péchés à lui, mais nos fautes, nos péchés. Et à cause de ce qu'il accomplit en notre faveur, nous sommes réconciliés avec Dieu. Nous sommes en paix. La malédiction qui était sur nous n'est plus sur nous. Jésus l'a pris, l'a porté et l'a enlevé. C'est la bonne nouvelle de l'Évangile de Jésus-Christ. Notre deuxième problème, c'était la loi de Dieu nous condamne. Eh bien, réjouissons-nous, le Christ Jésus nous fait grâce de toutes nos offenses. Et voici une application pratique pour chacun de nous de ceci. En Colossiens 3, 13, Paul écrit, « Faites-vous grâce réciproquement. Si quelqu'un a à se plaindre d'un autre, comme le Christ vous a fait grâce, vous aussi faites de même. » Nous avons chanté tantôt, « Pardonnez, je pardonne en retour. » Dieu nous a fait grâce de toutes nos offenses. Paul dit, « Si quelqu'un a raison de se plaindre d'un autre, comme Christ vous a fait grâce, de même, faites-vous grâce. Pardonnez, je pardonne en retour. » Quelle application pratique concrète dans le quotidien pour chacun de nous, dans nos couples, dans notre mariage, au travail, à l'école, partout, autour de nous. Vous avez une raison de vous plaindre de quelqu'un, dit l'apôtre Paul. Bien, faites grâce, comme Christ vous fait grâce de toutes vos offenses. Troisièmement, Jésus-Christ a vaincu le diable. Je relis le verset 15. Il a dépouillé les principautés et les pouvoirs et les a publiquement livrés en spectacle en triomphant d'eux par la croix. Pensez un moment à ces mots-là. Triomphant d'eux par la croix. Le triomphe de la croix. C'est paradoxal à première vue lorsqu'on pense à la croix. On voit ça comme une défaite, un échec, quelque chose de très négatif. Pourtant, Paul parle du triomphe de la croix ici. Les autorités au service du malin avaient mis à nu Jésus-Christ, l'avaient méprisé, avaient craché sur lui, l'avaient mis en croix, l'avaient fait mourir dans des conditions épouvantables. Ils avaient en quelque sorte célébré leur triomphe sur lui, mais dans un énoncé des plus dramatiques et paradoxales, l'apôtre Paul peut, par la foi, comprendre et saisir que l'horrible mort de Jésus est en réalité le triomphe de Jésus. C'est quelque chose. Notre œil physique regarde ce qui se passe à la croix, puis en conclut, c'est une perte, c'est une défaite, c'est un malfaiteur qui souffre injustement et tout s'arrête là. Mais l'œil de la foi voit beaucoup plus qu'un crucifié, il voit un vainqueur. L'œil de la foi voit plus qu'une victime souffrante. Qui saigne, il voit le glorieux Rédempteur qui s'offre en sacrifice pour enlever les fautes de son peuple bien-aimé. L'œil physique peut voir un perdant, mais l'œil de la foi voit le gagnant, celui qui est couronné, pas seulement d'épines, mais de gloire et d'honneur, parce que c'est le grand souverain Rédempteur qui est venu et qui a renversé les plans de l'ennemi, en quelque sorte, se servant de sa force, le triomphe de la croix. Jésus a triomphé, il a vaincu le diable, les démons et tous ceux qui s'opposent à lui, c'est-à-dire qu'il les a rendus incapables d'empêcher les élus du Seigneur de venir à la foi et de demeurer dans cette foi jusqu'à la destination finale. Admirons l'œuvre de Jésus-Christ. Réjouissons-nous en cette œuvre-là. Soyons reconnaissants. L'apôtre Paul ici utilise une image saisissante, celle des empereurs romains qui partaient en guerre et qui revenaient avec leur butin de guerre et avec les rois conquis, attachés. Et ils les traînaient, c'est des kilomètres de long, semble-t-il. Ils les exposaient publiquement. L'apôtre Paul se sert d'une image, probablement cette image-là, pour montrer qu'en réalité, la victoire du Fils de Dieu, elle est totale et complète. Il a dépouillé les principautés, les pouvoirs, il les a publiquement livrés en spectacle, en triomphant d'eux par la croix. Lorsque nous parcourons le Nouveau Testament et surtout les Évangiles, mais aussi les Épîtres, la Bible dit que l'ennemi, le diable, est tombé, chassé, jugé, jeté dehors, écrasé et enchaîné. Ce sont des termes qui sont utilisés pour nous convaincre de l'œuvre que Jésus-Christ a accomplie pour neutraliser l'ennemi de son peuple. Oui, pour Satan, la mort de Jésus pouvait sembler une grande victoire pour lui, pour le diable, une grande défaite pour Jésus, mais c'est une défaite pour le diable, totale. Par sa victoire, le Fils de Dieu tourne l'arme de ses assaillants contre eux-mêmes. Et c'est leur perte, leur défaite, leur faiblesse qui est exposée publiquement. 2 Corinthiens 2, 14, « Grâce soit rendue à Dieu qui nous fait toujours triompher en Christ. Vous et moi, nous avons part au fruit du triomphe de Jésus-Christ, en ayant le pardon des péchés, mais aussi toutes les autres bénédictions, richesses et largesses liées à notre salut. Colossiens 2,15 est un cri de victoire dont l'écho retentit jusqu'à nous aujourd'hui. Le triomphe de Jésus-Christ est le nôtre. Nous y sommes associés par la foi, parce que nous sommes en Jésus. Par pure grâce, un serviteur de Dieu a dit, « Bien qu'il y ait une malédiction en la croix, cette malédiction a été toutefois engloutie par la puissance et la vertu du Fils de Dieu, à un point tel que la croix a en quelque sorte pris une nouvelle nature. Il n'y a tribunal si magnifique, il n'y a trône si excellent, il n'y a appareil de triomphe si noble, il n'y a char si éminent et honorable que n'est ce gibet auquel le Christ a subjugué, voire même totalement brisé sous ses pieds la mort et le diable qui était le prince de la mort. » On n'a rien fait de ça, nous. C'est l'œuvre du Christ Jésus, c'est lui qui a. Il nous a rendus à la vie, il nous a fait grâce, c'est lui qui a effacé, supprimé, dépouillé, livré. Ah, quel sauveur merveilleux nous avons. À lui soit la gloire. En résumé, après nous avoir appelés au verset 10, que nous avons tout pleinement en Jésus-Christ, dans les versets 11 à 15, Paul relève trois aspects de cette plénitude que nous avons en Jésus-Christ. Nous avons le salut complet, le pardon complet et la victoire complète. Un trio de bénédictions sans pareil que nous a acquis le précieux Fils de Dieu. Un jour s'est tenu un grand débat à Lausanne sur le sujet fondamental suivant, comment l'homme pécheur est-il rendu juste devant Dieu? Question fondamentale, oui. Pour débattre de cette question capitale devant des centaines de personnes, deux hommes, Guillaume Farrell et un franciscain du nom de Jean Tandy. Après l'exposé de Guillaume Farrell, qui a résumé la bonne nouvelle, en se servant des mêmes idées que j'ai exposées ce matin, voici ce qu'a dit le franciscain. Je ne voudrais pas commettre le péché de résister à la vérité divine. Je reconnais devant vous avoir été longtemps aveuglé et trompé. J'ai entendu la vérité maintenant. Je vois qu'il faut se tenir au seul Jésus, s'arrêter à sa parole, n'avoir d'autre chef, conducteur et sauveur que lui, qui, par son sacrifice, nous rend agréable au Père. Je demande pardon à Dieu pour tout ce que j'ai fait et dit contre son honneur. Je vous demande aussi pardon parce que je vous ai mal enseigné. Guillaume Farrell a dit, réjouissons-nous de ce que la pauvre brebis qui était errante dans les montagnes et les déserts, au milieu des loups et des bêtes sauvages, abandonne par la grâce du Seigneur les déserts infructueux, les fâcheuses épines des traditions humaines, et qu'elle entre aujourd'hui dans sa bergerie. Elle prend maintenant sa pâture dans la parole de Dieu. Ce matin, nous avons encore une fois pris notre pâture dans la parole de Dieu, cette bonne parole de Dieu, et nos âmes en ont été bénies, tranquillisées, apaisées, alors que nous avons regardé au Christ Jésus, qui est celui qui nous purifie de tous nos péchés, celui qui nous fait grâce de toutes nos offenses, et celui qui a remporté la victoire sur l'ennemi. Ces certitudes profondes, certaines et véritables, dignes de confiance, mettent 1 million de sourires dans nos cœurs et nous remplissent d'espérance pour vivre cette journée nouvelle et cette semaine nouvelle que Dieu veut bien nous prêter dans sa grâce. Amen.